Jusqu'à 22h, Asian Bubble. Entrez dans la bulle de Loli et découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Chaos, bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission d'Asian Bubble. Cette semaine, je vais vous parler du groupe Sawagi. On parlera ensuite de trois mangas des éditions Kiun, donc on aura la chronique du volume 4 du manga Relife, la chronique du volume 14 de Bright Stories et la présentation du manga Unlucky Young Men. On aura ensuite un point sur les sorties manga de la semaine. On aura une actualité au Japon avec un appareil qui a réussi à attraper des débris de combustible nucléaire dans un réacteur, donc à Fukushima. Et on finira avec une petite news musicale concernant Taemin, qui sera en concert à Paris en 2025. On va donc s'écouter tout de suite la première chanson de l'émission, c'est Clench de GNZ World, et on viendra juste après pour la présentation du groupe Sawagi. C'était GNZ World avec la chanson Clench. On passe maintenant à la présentation du groupe Sawagi. Donc c'est un groupe japonais d'électro, de funk, de hip-hop, de rock et de jazz qui a fait ses débuts en 2004 et qui est toujours en activité aujourd'hui sous le label Victor. Il se compose de 4 membres, Canon à la guitare, Takuto Unigame à la basse, Nico à la batterie et Koichi au clavier. Donc ce catchwork originaire d'Osaka est créé en 2004, le groupe s'appelle alors Karakuri et il cherche plutôt à jouer du hip-hop avec comme modèle le groupe japonais INSYST. Pendant 3 ans, ils ne font que répéter en studio, ce n'est qu'en 2007 qu'ils commencent vraiment à jouer en live. En 2009, ils sortent leur premier album High Hop sous le label Coladisc, un label indépendant de GVC Victor Entertainment. Cette même année, ils participent au Summer Sonic 09 d'Osaka, donc à travers le nom de leur premier album High Hop, ils montrent déjà qu'ils ne veulent pas être rangés dans un seul genre, donc je cite, « Quand vous tapez High Hop, donc c'est genre hip-hop sans le P sur internet, le moteur du recherche vous demande est-ce que vous voulez plutôt dire hip-hop ?» Donc en 2012, Sawagi prévoit de sortir un nouvel album pour l'été, le groupe dit clairement qu'il espère pouvoir jouer à l'étranger, donc il change de nom pour opter pour Sawagi, qui a en effet été choisi pour sonner intéressant et original aux oreilles des étrangers. Et s'ils veulent bien une seule étiquette, c'est celle de musique instrumentale, car d'après le groupe, cela permet de traverser les barrières de la langue et c'est sans limite. Notre espoir est de voler à travers le monde. Donc côté discographie, le groupe a sorti un album, High Hop le 5 août 2009, un single Hyper Rescue le 15 décembre 2010, ils ont participé à 2 compilations, Coladisc Presents Lost Treasures 2000-2009 qui est sorti le 2 décembre 2009 et New Action Compilation Volume 1 qui est sorti le 2 mars 2011. Ils ont aussi participé à une OST, l'OST de Ninja Slayer From Animation qui est sorti le 25 novembre 2015. Voilà, on va pouvoir s'écouter tout de suite 2 chansons de Aira Mitsuki qui ont été composées et arrangées par le groupe Sawagi. Donc on commence avec la chanson Fake et on reviendra juste après pour la chronique du volume 4 de Relife.
Asian Bubble. Découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
C'était Aira Mitsuki avec la chanson Level 5 qui a été composée et arrangée par le groupe Sawagi. On passe maintenant à la chronique du volume 4 de Real Life. Donc je rappelle que c'est un shonen de genre comédie, drame, romance, vie scolaire, science-fiction, tranche de vie, qui a été écrit par Yayo Iso, traduit par Anne-Sophie Thévenon et Julia Brun, et qui a été prépublié dans le Comico. La version japonaise est parue aux éditions Taibundo avec 15 tomes qui terminent la série, et la version française est parue aux éditions Kiun avec 15 tomes également. Ce volume 4 est sorti le 9 mars 2017 au prix de 9,55€. Donc le résumé de ce tome, c'est le début des vacances. Hélas, Arata n'est pas débarrassé des rattrapages pour autant. Et voilà que deux de ses camarades débarquent chez lui à l'improviste pour réviser. Grosse frayeur pour notre cobaye qui craint plus que jamais de griller sa couverture. Pour couronner le tout, lorsque Kazuomi le laisse seul avec Anne, la jeune fille lui avoue qu'elle est amoureuse de lui. Alors qu'Arata s'apprête à la repousser, Ryo fait irruption dans l'appartement avant de lui révéler que la demoiselle fait elle aussi partie de l'institut Real Life. Mais pourquoi exactement a-t-elle rejoint le lycée Aoba ? Donc le tome s'ouvre sur la surprise de Arata qui comprend que Anne s'est jouée de lui, de manière pas très saine qui plus est, suivie de lourdes explications pour détailler ce qu'on avait déjà compris. Malgré tout, certaines choses s'éclaircissent, y compris comment et pourquoi Arata a été choisie pour un tel programme. Par la suite, notre jeune héros sera moins présent, laissant la place à Tamarai, la capitaine du club de volley, un personnage peu vu et peu exploité jusque-là, qui, d'un coup, occupe tout le devant de la scène. Arata ne devient alors qu'un personnage secondaire d'un récit dont il est à l'origine, donc en soi ce n'est pas si dérangeant que cela, mais suivre les problématiques de la charmante Tamarai vient poser tout de même quelques questions. Elle est déçue par certaines de ses camarades, souffre du rejet de certains d'entre eux, s'appuie sur l'amitié de camarades proches qui la soutiennent quoi qu'il arrive. Donc c'est très bien, c'est même assez mignon, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut lire ? Le concept de la série était de placer un adulte dans son corps d'ado et de le plonger dans un monde qui n'est plus le sien, avec des codes qui ont changé. Donc c'est amusant, parfois même troublant, mais surtout il s'agit là d'un concept vraiment passionnant. Mais avec ce quatrième tome, la série devient tout simplement un titre tranche de vie adolescente, en laissant totalement de côté le concept de départ. Toutes les problématiques que cela soulevait sont laissées de côté pour un simple problème d'ado, plus ou moins mal dans sa peau. Non pas que ce genre de thème ne soit pas forcément intéressant, mais comprenez par là que la série nous a été vendue sur un concept, et que celui-ci est totalement laissé de côté pour revenir vers quelque chose de beaucoup plus, voire trop classique. Le lecteur qui était venu chercher un peu d'originalité a de quoi être déçu avec ce tome. Difficile donc de donner un avis sur ce volume en tant que tel. Il s'agit d'une belle tranche de vie, bien qu'un peu simpliste, l'émotion est là, les personnages sont intéressants, mais ce n'est pas forcément ce qu'on vient chercher à l'origine avec ce titre. En bref, on a là un volume agréable, quoique un peu lourd à lire, un peu plus lourd à lire que les précédents, mais un volume assez perturbant parce que trop éloigné du concept à l'origine de la série. Voilà, donc je rappelle que la série Real Life est à retrouver en 15 tomes aux éditions Kiun. On va s'écouter tout de suite le quatrième ending de l'anime Real Life, c'est Oni de l'Arc-en-Ciel. Et on reviendra juste après pour la chronique du volume 14 de Bright Stories. その景色を真っ白な壁に飾ってある乾いた風を絡ませあなたを連れてくのさ Honey so sweet Donc c'était l'arc-en-ciel avec la chanson Oni qui a servi de quatrième ending pour l'anime Re:Life. On passe maintenant à la chronique du volume 14 de Bright Stories. Donc je rappelle que c'est un seinen de genre drame, histoire courte, historique, romance, tranche de vie qui a été écrit par Mori Kaoru, traduit par David Le Quéré et Johan Leclerc et prépublié dans les Fellows, Arta et Aokishi. La version japonaise est parue aux éditions Enterbrain avec 14 volumes, la série étant toujours en cours. Et la version française est parue aux éditions Kiun avec 14 tomes également. Ce volume 14 est sorti le 4 mai 2023 au prix de 7,95€ et le tome 15 n'est pas prévu pour tout de suite puisque sa date annoncée est le 17 avril 2025. Donc le résumé de ce tome, afin de lutter contre la menace russe, les peuples de la steppe ainsi que les villageois décident de s'unir pour faire front commun. Afin de sceller cette alliance, plusieurs mariages doivent être célébrés. Mais pour cela, les prétendants doivent prouver leur valeur en battant les jeunes filles lors d'une course de chevaux effrénée. Donc, tandis que l'hiver bat son plein sur l'Asie centrale du 19e siècle, au nord, l'Empire russe menace, en cherchant actuellement à s'emparer d'un port ne gelant pas l'hiver. Dans ce contexte où l'invasion semble imminente, Smith a déjà fait son choix, en devant se résoudre amèrement à arrêter son voyage pour embarquer en bateau jusqu'à Bombay. Mais du côté des clans des steppes et des villes menacées, qu'en est-il ? Eux aussi doivent désormais prendre des décisions, et c'est dans cette optique qu'Azer, qui a pris la succession de Berkut au poste de chef du clan Argal, est convié avec ses cousins Joruk et Beymat à une grande réunion entre les différents peuples de la région. Donc dans cette réunion où les armes sont interdites et où l'on découvre rapidement différents clans ainsi que leurs patriarches, l'enjeu est aussi clair qu'important. Tempérer les querelles entre les clans nomades et les sédentaires de la ville, oublier les conflits passés entre eux pour s'organiser ensemble contre l'ennemi bien plus important que représente l'envahisseur russe. Mais pour sceller les alliances, il est forcément question de mariage, et avant cela, encore faut-il prouver sa valeur. C'est donc là tout l'enjeu de la très grosse majorité de ce 14e volume, si ce n'est l'ensemble du tome. Et en se réappropriant soigneusement les coutumes des peuples qu'elle met en scène, Kaoru Mori a ici tout le loisir de démontrer une nouvelle fois ses vertus graphiques, en dépeignant en guise d'épreuve une longue et belle course de chevaux, ponctuée de quelques rebondissements captivants. C'est bien simple, l'ensemble de cette course, mise en scène avec ampleur dans les immenses plaines d'Asie centrale, est aussi épique que magnifique à regarder, que ce soit grâce aux qualités de mise en scène de l'autrice, ou grâce à la puissance visuelle qu'elle met dans chacune de ses planches. Tandis que les décors immersifs, vastes et soignés défilent sous les coups de sabot des chevaux, Mori dessine avec un soin grandiose les chevauchés, les silhouettes, la rapidité et la musculature de ses montures, en particulier des chevaux Karkashka et Alkik, qui sont superbement mis en valeur. Et évidemment, les cavaliers et cavalières ne sont pas en reste, en particulier un Azer qui brille par sa détermination et sa force, et une Jeanne Biquet qui, en plus de s'imposer comme une femme bourrée de caractère et de charisme, n'a absolument rien à lui envier. L'issue de cette épreuve pleine de verve et de passion est évidente en nous rappelant au bon moment pourquoi la série s'appelle Bright Stories. Pour le 100e chapitre de l'œuvre, il ne pouvait qu'être question de noces. Et si Mori y sublime chaque instant en détaillant avec son soin habituel les parures, les montures et autres éléments des tenues et cadres de mariage, elle sait également installer trois nouveaux couples qui sont tous bien différents pour autant de visions du mariage. Et Amir et Karlurk dans tout ça, eh bien, s'ils restent plus secondaires dans ce volume, ils ne sont aucunement oubliés et on les retrouve avec plaisir au moment où eux-mêmes se retrouvent après l'absence de Karlurk. Entre sublimes chevauchées dans les steppes enneigées, chasse aux cerfs, moments d'intimité et promesses de se protéger l'un l'autre, Kaoru Mori met toujours aussi bien en valeur la complicité et la tendresse de son couple vedette. Tout en n'oubliant jamais de rappeler derrière tout ça que la menace russe se rapproche toujours plus. Voilà, donc je rappelle que la série Bright Stories est à retrouver avec pour le moment 14 tomes aux éditions Kiun. On va s'écouter tout de suite la chanson I Love You, I Want You, I Need You, la version suite acoustique de Go Ohara, et on reviendra juste après pour les sorties manga de la semaine.
그대만 보죠 못 본 척 지나친 걸 알면서도 그대 곁에만 있으면 시간이 멈춘 것 같아 내내 웃기만 했었죠 말없이 그대만 보죠
C'était Go Ala avec la chanson I Love You, I Want You, I Need You, la version suite acoustique. On passe maintenant aux sorties manga de la semaine. Donc on aura des sorties mercredi 6 novembre avec chez Pika, le volume 17 de A Couple of Cuckoos, le volume 8 de All Out, le volume 11 de Black Shadow, le coffret avec les volumes 1 à 3 de la réédition 2023 de Blue Lock, le volume 3 de l'édition originale de Détonation qui sera le dernier tome de la série, le coffret avec les volumes 1 à 3 de Fairy Tail 100 Years Quest, le coffret avec les volumes 1 à 3 de la réédition de Gachiyakuta, on aura la sortie du volume 9 de Goddessist Cafe Terrace, le volume 5 de Humanimals, le volume 23 de Kaguya-sama Love is War, le volume 3 de Little Ends qui sera le dernier tome de la série, le volume 1 de Second Life Ranker, le volume 1 de Starving Revelation, le volume 4 de The Warrior Princess and the Barbaric King, le volume 3 de Tsuwamonogatari, le volume 11 de Under Ninja, le volume 1 de Une belle fille à croquer, le volume 6 de Welcome Back Alice et le volume 2 de Wistoria Wand and Sword. Chez Delcourt Tonkam, on aura la sortie du volume 3 de Après avoir regardé le ciel étoilé qui sera le dernier tome de la série, le volume 5 des légendaires Les Chroniques de Darkel, et le volume 2 de Mission in the Apocalypse. Chez Panini, on aura la sortie du volume 1 de Asakiyumeshi Yumemichi, pardon, le dit du Genji. On aura la sortie du volume 8 de mars, l'édition Deluxe, donc ce 8e tome qui sera le dernier tome de la série. On aura chez Glénat le volume 6 de Blue Giant Explorer, le volume 2 de Neige et de Flamme, le volume 1 de Internet Love, le coffret avec les volumes 62 à 70 de One Piece, l'arc Fishman Island, le volume 14 de Reimp et le volume 3 de Tokyo Revengers, Letter from Keisuke Baji. Aux éditions Webtoon, on aura la sortie du volume 2 de Cursed Princess Club, chez Soleil la sortie du volume 2 de Days with My Stepsister, le volume 14 de La Sorcière Invincible Tueuse de Slim depuis 300 ans, le volume 1 du Fantôme de l'Opéra Mon Très Cher F, le volume 3 du Marquis d'Amnésie, le volume 8 de Pourquoi Attendre, le volume 6 de Soi M'amuse, et on aura le coffret avec les volumes 1 à 3 de Super Mario Manga Adventures, sorti en 2024. Chez Albin Michel, on aura la sortie du volume 1 de Delusion, chez Nobinobi, on aura la sortie du volume 1 de Galilée, le volume 1 de Hikari, Rêve de Star, le volume 6 des 4 frères Yuzuki, le coffret avec les volumes 1 à 3 de Miraculous, le volume 2 de Stitch, Ami pour la vie, ce volume 2 qui sera le dernier tome de la série. On aura le coffret intégral de Stitch et le Samouraï, et le volume 4 de Tellement flou d'elle. Aux éditions Nobinobi, on aura la sortie du volume 6 de Elk, le volume 1 du Chat mène l'enquête, le volume 25 de The Rising of the Shield Hero, le volume 11 de Why Nobody Remembers My World et le volume 9 de Yasei no Last Boss. Chez Crunchyroll, on aura la sortie du volume 5 de Level Up Disaster Divine Power qui sera le dernier tome de la série et le volume 8 de Two-Face Taemon. Chez Mangetsu, on aura la sortie du volume 10 de Ma Revenante Bien-Aimée qui sera le dernier tome de la série, le volume 11 de Ron Kamono Hashi Deranged Detective, le volume 3 également de The Lost Signal and This Communication. Et enfin chez Keybooks, on aura la sortie du volume 1 de Radio Storm, le volume 1 de Stay Popular et le volume 4 de The Dangerous Convenience Store. On aura d'autres sorties ensuite pour jeudi 7 novembre avec chez Akata le volume 1 de Black Blood, le volume 1 du Cèdre et la Neige, le volume 1 de Link and Ring, le volume 1 de Not My Fiancé, le volume 1 de Un comptable à la cour, le volume 7 de Vampires, le volume 9 X de À l'image de Mona Lisa, et on aura également le volume 10 Y qui sera le dernier tome de la série. Chez Kiun ensuite, on aura la sortie du volume 3 de Crescent Moon Dance with a Monster, le coffret avec les volumes 1 à 3 de Frieren, le coffret avec les volumes 1 à 3 de Jujutsu Kaisen. On aura également le volume 5 de Kindergarten Wars qui sera disponible, donc ce volume 5, et vous aurez également le coffret avec les volumes 1 à 3 qui sortira donc en même temps. On aura le volume 4 du Palais des Assassins, le coffret avec les volumes 1 à 3 des Carnets de l'Apothicaire, le volume 40 de My Hero Academia, on aura également le coffret avec les volumes 1 à 3 de My Hero Academia, et le volume 3 de Nine Peaks. Chez Comic Coup, on aura la sortie du volume 13 de Faraway Paladin, le volume 1 de Grande Familia, le volume 3 du Guérisseur de l'Ombre, le volume 3 des Cartographes, qui sera le dernier tome de la série, et le volume 5 de Step by Step Sarah. Chez Mana Books, on aura la sortie du volume 10 du Quotidien d'une épée maudite, le volume 4 de The Legendary Hero is Dead, et le volume 10 de Villageois niveau 999. Chez Michel Lafont, on aura la sortie du volume 5 du Retour du clan Hwasan, et chez Omake Books, la sortie du volume 1 de Nogo Zone X. On aura d'autres sorties pour vendredi 8 novembre avec chez Imo le volume 1 de la réédition de La Musique de Marie, chez Kana le volume 21 de Mission Yozakura Family, le volume 30 de Seraph of the End, le volume 3 de Tangshare, le volume 18 de Togen Enki, La Légende du Sang Maudit, le volume 1 de Une Vie Chinoise, la réédition de l'intégrale 2024. Chez Vega Dupuis, on aura la sortie du volume 1 de Mobile Suit Gundam Unicorn, le volume 2 de Reborn as a Vending Machine, le volume 10 de Rebuild the World et le volume 3 de Super Beast. Les dernières sorties de la semaine, ça sera pour samedi 9 novembre avec chez Studio Publishing, la sortie du volume 1 de Irrésistible Innocence qui sera disponible en édition normale et en édition spéciale. Voilà, on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Nioku Yonsenman no Hitomi, la version exotique Japan de Go Hiromi, et on viendra juste après pour la présentation du manga Unlucky Young Men. C'était Go Hiromi avec la chanson Nioku Yonsenman no Hitomi, la version exotique Japan. On passe maintenant à la présentation du manga Unlucky Young Men. Donc c'est un seinen de genre action historique qui a été écrit par Otsuka Eiji, dessiné par Fujiwara Kamui, traduit par Sébastien Ludman et prépublié dans le Yasei Jidai. La version japonaise est parue en 2007 aux éditions Kadokawa Shoten avec deux volumes qui terminent la série. Et la version française est parue le 8 octobre 2015 aux éditions Kiun dans leur collection Latitude, avec également deux tomes. Vous pourrez retrouver Unlucky Young Men dans le commerce au prix de 19,90€. L'âge conseillé pour le lire est de 16 ans et plus, et il n'existe pas d'adaptation en animé. Donc aux frontières du polar et de la chronique sociale, Unlucky Young Men nous entraîne dans un Tokyo des années 60, ébranlé par le terrorisme et les révoltes étudiantes. Donc le résumé de cette série, Tokyo en 1968, les mouvements étudiants tournent à l'émeute et l'agitation gagne le Japon. Pour essayer d'échapper à son lourd passé criminel, Norio Nagayama rejoint la capitale dans l'espoir d'un nouveau départ. Au village Vanguard, un bar jazz dans lequel la jeunesse révolutionnaire nippone a ses quartiers, il fait la connaissance de Takeshi Kitano, un jeune comique raté qui tente de faire carrière dans le cinéma. Le grand projet de Takeshi, Unlucky Young Men, un scénario qu'il a rédigé, véritable chronique d'une génération japonaise désabusée, est prêt à tout pour réaliser ses rêves. Afin de financer la production du film et d'assurer leur avenir, les deux jeunes hommes vont planifier l'attaque d'un fourgon transportant 300 millions de yens. Donc à propos des auteurs, Eiji Otsuka, qui s'est chargé du scénario, est né en août 1958 dans la préfecture de Tokyo. Il s'intéresse au manga dès son plus jeune âge. Donc aujourd'hui scénariste, on lui doit entre autres Kurosagi Livraison de cadavres ou encore MPD Psycho. Connu aussi comme théoricien du manga, il publie plusieurs ouvrages sur ce thème, notamment sur le manga des années 1920 à 1945. Il a développé une théorie initiée par Osamu Tezuka et Shotaro Ishinomori. Le manga actuel serait ainsi un amalgame de la théorie sur le montage au cinéma de Sergei Eisenstein et de l'esthétique de Mickey Mouse créée par Walt Disney. Une théorie qu'il développe lors de conférences dans plusieurs universités et pendant quelques années, de 2006 à 2013, en tant que professeur à la Kobe Design University. Et donc on a également Kamui Fujiwara, qui est au dessin. Donc né à Tokyo en septembre 1959, c'est un auteur accompli. Récompensé dès sa première œuvre en 1979 par les Tezuka Awards, aux côtés de Tsukasa Hojo, il est très apprécié des lecteurs japonais pour ses personnages élaborés et son grand sens du détail. Il cite régulièrement Moebius et Katsuhiro Otomo comme ses maîtres à penser en matière de bande dessinée. Si on lui doit quelques chara-design pour des RPG cultes comme Terranigma ou Grandia Extreme, c'est principalement avec Dragon Quest Emblem of Roto et ses 19 millions d'exemplaires vendus qu'il connaîtra un succès mondial. Cependant, il n'hésite pas à s'éloigner du shonen pour signer des œuvres beaucoup plus intimistes, comme sa propre adaptation de la Genèse, ou encore Unlucky Young Men. Voilà, donc il y a beaucoup de choses encore à dire sur l'univers de Unlucky Young Men, puisque, comme je le disais, ça s'inspire de faits réels. Donc on parlera de tout ça lors d'une prochaine émission, avec donc les années 60 au Japon. En attendant, on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Sakura Hiro Dai Ni Button de Grand Rodeo, et on reviendra juste après pour une actualité au Japon.
を駆け上がる精一杯の思い抱いて僕は君を好きだった今も色褪せないメロディー大きなその瞳は僕の一番深いところ見つめるように貫いた青空より も鮮やか恋心胸に切なくいつか中を舞うハッピーだ my town. かけ伸びる後ろ姿控えめな合唱をさい染み込む鍵盤の音色出会いと別れ季節が飛んでくる第二ボタンの輝き桜色
Donc c'était Grand Rodeo avec la chanson Sakura Hiro Dai Ni Button. On passe maintenant à l'actualité au Japon. Donc la compagnie d'électricité TEPCO a fait savoir qu'un appareil avait, à titre d'essai, réussi à attraper une petite quantité de combustible fondu d'un réacteur endommagé de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Cette opération devrait prendre environ une semaine. Donc en cas de succès, ce sera la première fois que des débris nucléaires auront été retirés de l'un des trois réacteurs de la centrale après la catastrophe de mars 2011. Le test a débuté peu avant 10h mercredi matin la semaine dernière. donc un outil en forme de griffe fixé à l'extrémité d'un dispositif de collecte télescopique, avait été descendu au fond de l'enceinte de confinement du réacteur numéro 2 de la centrale. Une petite quantité de débris avait pu alors être attrapée environ une demi-heure plus tard. TEPCO prévoit de remonter le dispositif depuis la cuve de confinement jeudi prochain ou plus tard, et de placer les débris nucléaires dans un conteneur de transport. Voilà, donc affaire à suivre. On va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Playboy de Gulev, et on reviendra juste après pour terminer l'émission avec une news musicale.
Yeah.
Donc c'était Gulev avec la chanson Playboy. On passe maintenant à la news musicale pour terminer cette émission. Donc le chanteur sud-coréen Taemin annonce sa tournée européenne avec l'organisateur My Music Test. 2024-25 Taemin World Tour Ephemeral Gaze in Europe aura le droit à 5 dates, incluant Paris, le 12 mars 2025, dans une salle qui est encore tenue secrète. Donc si ça vous intéresse, davantage d'informations arriveront ultérieurement, mais on a quand même la liste des 5 dates de cette tournée. Donc on aura le 4 mars 2025 à Londres au Royaume-Uni, le 7 mars à Francfort en Allemagne, le 9 mars à Londres au Royaume-Uni, le 11 mars à Tilburg aux Pays-Bas et enfin le 12 mars 2025, ça se passera à Paris en France. Voilà, donc si vous ne connaissez pas encore Taemin, vous allez pouvoir l'écouter tout de suite avec la chanson Danger. C'est ce qui va terminer d'ailleurs l'émission de cette semaine. Je rappelle que vous pourrez me retrouver vendredi prochain de 18h30 à 19h pour l'émission Cordialement Geek. Sinon, on se retrouvera pas lundi prochain puisque c'est férié, mais lundi suivant, donc le 18, pour une nouvelle émission Asian Bubble. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à bientôt!
Saraseo, saraseo.